je voudrais faire partie de ceux qui détectent l'erreur, qui dévoilent l'erreur, et non pas de ceux qui se croient propriétaires de la vérité.
Cette voix, c'est celle d'Edgar Morin en 77. Il est alors l'invité de l'émission de France 3 Régions, L'Homme en question. C'est filmé au pied de la Sainte-Victoire, pas loin d'Aix. Il fait beau fin mai. Bonjour et bienvenue dans cette 22e visite de la saison 9 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, c'est une visite auditive à l'un des plus grands penseurs du siècle et pour le coup, l'expression ne semble pas usurpée. Edgar Morin est né à Paris en 1921 et vient de mourir à 104 ans. Il était à la fois philosophe, historien, sociologue, anthropologue et médiatique.
Le mot qui me plaît, c'est chercheur. Enfin,
pourquoi ?
Je me vois chercheur. Je ne sais pas très bien ce que je cherche. Je cherche à ne pas me tromper, je cherche à comprendre, je ne sais pas.
En faisant cette émission, j'ai compris combien il était plus précis, plus riche, plus vrai et que bien d'autres penseurs médiatiques de nos jours. Surtout, sa pensée, celle d'un chercheur qui doute, est bien plus profonde et même prophétique. Vous verrez, vous ne regretterez pas le voyage. En 2021, c'est ce soir, l'invité pile avant son 100e anniversaire. La pensée vive, c'est parti.
Comme je n'ai pas de discipline, je suis polydisciplinaire et indiscipliné. Donc, mon œuvre s'est répandue, disons un peu comme les spores d'un arbre que le vent disperse à tout vent. Et effectivement, avec le temps, il y a eu pas mal de dispersions avec des endroits principaux comme les pays latins. Le temps a joué en faveur de mes idées sans pourtant qu'elles se soient nullement imposées dans le système.
Parfois on me téléphone, on m'appelle comme si on appellerait le sociologue de service, c'est-à-dire comme s'il y a une compétence. Moi je pense que la science de la société, c'est une science pleine d'incertitudes, enfin c'est pas une vraie science. Et surtout, ce que je n'aime pas, c'est avoir, de par ma fonction, une pseudo-autorité pour trancher les choses.
En 2016, la japonaise Momoko Seto réalise le documentaire Edgar Morin, un penseur à Paris. C'est passionnant et jusqu'à fin novembre, en replay sur France 5.
Comme je n'ai eu aucune culture héritée par mes parents, ils ne m'ont inculqué aucune vérité, quelle qu'elle soit, bien sûr pas religieuse, mais aucune vérité, aucune norme. Donc, si tu veux, je me suis fait ma culture moi-même. Et cet événement qui a été la mort de ma mère à 10 ans a déterminé deux choses. D'un côté, un sentiment d'absurde, de nihilisme, de doute, de tout, et ce qui a nourri un scepticisme qui ne m'a jamais quitté. D'un autre côté, un besoin d'amour, de communion, parce que j'étais enfant unique en plus, j'étais comme ça. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à avoir une vie amoureuse très, très, très forte et qui m'a poussé aussi à chercher la communauté. Alors, donc j'avais ces deux pulsions contraires. Je cherchais une foi et d'un côté, je doutais. Mes premières lectures qui m'ont marqué, c'est d'un côté Anatole France, qui est un écrivain du doute, et de l'autre côté Dostoïevski, qui est un écrivain de la foi. Alors, c'est-à-dire que j'étais très disposé à voir les vérités des opinions contraires. Et finalement, moi je crois qu'une des idées clés de la complexité que j'ai développée en lisant Hegel, le philosophe plus tard, c'est qu'il faut accepter d'unir en soi deux vérités contraires. Et même Pascal m'a dit, le contraire d'une grande vérité, ce n'est pas une grande erreur, c'est une autre grande vérité. Donc, si tu veux, c'était un chemin. Et en même temps, je cherchais ma voie. J'étais quelqu'un, dans le fond, de très ouvert aux contradictions, puisque je les vivais.
Alors, je dirais, même et surtout, que la révolution qui simplifie la réalité, qui simplifie l'ennemi, qui simplifie le modèle, qui simplifie la lutte, qui simplifie le problème du bien et du mal, ce n'est pas la révolution, c'est la réaction. Je me pose exactement, dans le fond, les problèmes que je me posais à 13-14 ans. C'est de trouver un sens à la vie, que croire, que voilà. Ne pas croire, c'est ouais. Ça les trucs. Sur quoi on peut se fonder, quelles sont mes certitudes, hein? Sur quoi il faut douter, contre quoi il faut lutter.
Comment se réconcilier avec soi-même? Faut-il vraiment se réconcilier avec soi-même? Etc. Ce qui est curieux, c'est que ces problèmes à 13-14 ans, je me les posais dans une sorte de ballottement insensé. Alors je lisais Montaigne à la Toile France, alors je pensais qu'il fallait douter de tout. Je lisais Dostoïevski, alors je pensais qu'il fallait croire en quelque chose. Enfin, je oscillais entre des ferveurs et le doute. Et dans le fond, je n'ai pas changé. Sinon que je sais, je crois savoir que désormais, il faut intégrer l'incertitude dans la connaissance.
Ce qui me fait toujours peur et horreur, c'est l'arrogance de celui qui est sûr d'avoir le point de vue universel et objectif, c'est-à-dire qui prétend que la science parle par sa bouche, ou que l'humanité parle par sa bouche, ou que le prolétariat parle par sa bouche, surtout quand c'est un intellectuel bourgeois. Et alors, à ce moment-là, c'est celui qui vous dit « Vous, vous êtes déterminé, mais pas moi. Vous êtes déterminé par votre classe, par votre condition, par votre race. » Et lui, il échappe toujours à la détermination.
Le grand œuvre d'Edgar Morin, c'est un ensemble de 6 livres aujourd'hui en poche, titré « La méthode ». Allez, petite intro patchwork par l'auteur, alternant 2016 et 2021.
Une société très complexe ne peut vivre d'une façon saine que si les habitants ou la population est inscrite en elle, comme une sorte de surmoi, le sens de la communauté, d'appartenir à une communauté. Parce que quand tu sens que tu appartiens à une communauté, tu as un sens de la responsabilité et de la solidarité. Or, quand disparaît la responsabilité et la solidarité, tu commences à avoir des effets tout à fait pervers. La liberté devient égocentrique. Tu as la solidarité se désintègre. Tu as le jeu uniquement des conflits. Tu as ce déversement de cette économie néolibérale, n'est-ce pas, qui prétend qu'elle se régule toute seule. J'avais été tellement frappé par Marx. Pourquoi ? Parce que Marx, il a voulu, pour faire sa politique, pour dessiner une politique, une pensée, savoir ce que c'est la réalité, la physique, la biologie, l'anthropologie, l'économie, les sciences humaines. Il sentait qu'il fallait réunir des connaissances dispersées. Et moi, dès que je suis entré dans l'université, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais avec le fait que je savais maintenant qu'il y avait quelque chose de mort dans la pensée, bien que géniale, de Marx. Qu'est-ce que voyait l'homme ? Qu'est-ce qu'était l'homme pour Marx ? L'homme pour Marx, c'était l'homme producteur, qui produit, le technicien, Homo faber, le travailleur. Or, l'homme, c'est aussi quelqu'un qui a des mythes, qui a des rêves, qui a des passions, qui a tout ça, tout cet aspect-là. Que Freud après, mais et pas lui seulement. Bon. Ensuite, l'histoire. Pour Marx, l'histoire était plus ou moins rationnelle. C'était le développement des forces économiques, la lutte des classes. Mais il ne voyait pas le côté shakespearien de l'histoire, le bruit, la fureur, la folie. Pour lui, l'homme était un être abstrait. Il ne voyait pas que l'homme était un être pas seulement raisonnable, mais fou. Et y compris dans sa raison la plus classée. Donc, j'ai compris qu'il fallait changer de voie. Pourquoi ? Parce que le monde, depuis notamment les années 1980, qu'on appelle les années Reagan et Thatcher, le monde s'est engagé dans ce qu'on appelle la révolution conservatrice moderne ou le néolibéralisme, c'est-à-dire pas seulement le marché, mais la destruction des services publics de l'État, des États, qui doivent entrer dans le marché, la commercialisation des hôpitaux, etc. Donc, c'est une doctrine qui a créé, en quelque sorte, dans le monde, une domination de l'argent qui a parasité la politique, d'autant plus que s'est créé un vide politique immense, notamment à gauche, parce qu'à droite, il suffit d'être un peu, vouloir conserver des choses. Je veux dire que la droite n'a pas tellement besoin d'une pensée, elle a besoin simplement de savoir être intelligemment conservatrice. Et c'est l'unité dans la variété dans l'unité, qui est la complexité. Si tu as un élément simple, tu comprends, déjà, même la molécule d'eau est complexe. Pourquoi? Parce que deux atomes d'hydrogène plus un d'oxygène créent un ensemble qui a des qualités que n'ont ni l'oxygène ni l'hydrogène, et qui a des qualités de l'eau. Donc, on voit très bien que la complexité naît à travers des qualités nouvelles que créent les organisations. Donc, tout ceci, c'est au cours de l'intégration en moi des idées de la rétroaction de Wiener, c'est-à-dire d'une causalité qui n'est plus linéaire, mais qui est en boucle. C'est l'introduction de beaucoup d'idées, comme l'idée d'auto-organisation, l'idée de auto-éco-organisation, c'est-à-dire pour s'auto-organiser, il faut se nourrir dans l'environnement. Enfin, toutes ces idées qui ont fermenté en moi et qui m'ont donné l'idée de faire cette série de livres qui s'appelle « La méthode », qui était la méthode pour chercher une pensée complexe, comment à former une connaissance complexe et une pensée complexe. Donc, si tu veux, la méthode était la recherche, non pas d'une synthèse, mais d'un principe, dans le fond, finalement, ce que j'appelais un paradigme, c'est-à-dire un principe pour connaître et pour penser qui est fondé ni sur la disjonction, c'est-à-dire la séparation, ni sur la réduction, c'est-à-dire de réduire un tout complexe à ses éléments simples, mais sur la distinction, parce qu'il faut distinguer, donc c'est la part de séparation qu'il faut quand même, et sur la reliance, la relation, voilà. Donc il faut relier et distinguer, et non plus séparer et réduire. C'est finalement la clé. Or, comme on n'apprend jamais ça, ni à l'école, ni à l'université, les esprits sont formés, sont formatés sur une pensée anticomplexe, et à mon avis, ce conduit à des aveuglements, à des erreurs, à des illusions que nous subissons de plus en plus gravement aujourd'hui.
Alors. Retour en 77. Décidément excellente année. Voici ce qu'il disait il y a près de 50 ans. Ne me dites pas après que cela ne vous évoque absolument rien aujourd'hui.
Avant connaître, c'était avoir un certain nombre de savoirs qu'on peut articuler pour le penser et pour réfléchir. Évidemment, l'honnête homme du XVIIe siècle, il n'avait pas beaucoup d'éléments de connaissance, hein. Il n'avait pas beaucoup de matériaux, puis il les manipulait. Alors il y avait Montaigne, La Bruyère, Pascal, disons, qui manipulaient les mêmes éléments, chacun en lui donnant un sens différent. Aujourd'hui, on croule absolument sous les informations multiples, et puis le savoir est découpé, il est parcellaire, il est spécialisé, il est mis en boîte. Et alors, quel est le changement, en effet ? C'est que tout cet énorme savoir, qui ne peut plus être articulé ni pensé, en réalité, il est désormais accumulé de façon anonyme pour une utilisation anonyme. Qu'est-ce qui va utiliser ce savoir ? Les bureaux, les offices, les pouvoirs.
Y compris les multinationales économiques, suivez mon regard.
Nous sommes submergés par des faits qui nous ébranlent, mais nous n'arrivons pas à les intégrer. Nous n'arrivons pas à les comprendre. Alors, soit on les refoule, on les oublie, on les endort, parce que notre logique est incapable de les voir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nos principes d'explication nous rendent aveugles à ce qui se passe dans le monde. Et je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est de trouver ce nouveau principe qui ne peut se trouver que dans la souffrance, dans l'effort collectif, et à un moment donné, quelque chose pète et on change de système.
Bon, changer de système ne semble pas normer le logiciel de nos élites économiques, les patrons du chiffre. Et il va encore plus loin. Exemple avec ces extraits de France Culture en 1999, il y a 27 ans, une génération, et écoutez bien.
Je crois qu'il y a une hégémonie de ce mode de pensée qui réduit tout au calcul. Ça, c'est absolument incontestable, qui ne comprend pas les souffrances. Enfin, c'est le mode de pensée qui règne dans l'économie et dans la technique, et qui est une nouvelle forme de barbarie, parce que c'est une barbarie qui naît dans notre civilisation et qui, aujourd'hui, coopère avec toutes les vieilles barbaries que nous connaissons. Ça, à mon avis, c'est la ligne de la nouvelle résistance, je crois. Mais, et c'est pour ça que
le travail de réflexion et de pensée est menacé, mais il est menacé de l'intérieur et de l'extérieur. Il est menacé de l'intérieur parce qu'on vit dans un monde chronométré, précipité, le temps de la réflexion manque, il n'y a pas d'investissement réflexif en politique ou ailleurs, on est toujours au jour le jour et on est pris dans des planifications, des programmations, etc. Le temps de la réflexion manque totalement, ça c'est la menace intérieure. Et de l'extérieur, quand vous voyez par exemple la télévision, un débat vraiment argumenté est devenu quasi impossible. Parfois dans Arte, à une heure tardive de la nuit, il peut y avoir une heure de débat entre deux personnes. Mais moi, je me rappelle quand même qu'il y avait un temps où je pouvais discuter pendant une heure avec quelqu'un. Bon, bien sûr, aux heures tardives. Mais maintenant, effectivement, on veut du spectacle. Et en plus, sur le plan d'édition, le livre devient de plus en plus une marchandise. Vous voyez un circuit extrêmement rapide. On l'envoie chez les libraires. Les libraires n'en veulent pas. Ils le renvoient. Des tas de livres meurent aussitôt d'être nés. Les services de presse orientent les critiques vers certains livres supposés être des futurs best-sellers. Enfin, bref, il y a une machine anonyme, commerciale et mercantile qui se répand de plus en plus partout. Tout n'est pas perdu, mais tout est de plus en plus marginalisé. Toute civilisation, disons, a un socle de barbarie et de cruauté auquel il faut penser. Il y a à ce niveau-là. Mais je dirais que notre civilisation, qui s'est fondée sur la barbarie, sur la conquête, sur l'hégémonie, mais notre civilisation a quand même produit de l'intérieur une forme de barbarie qui est anonyme, qui est glacée, qui est froide, qui est celle de la technoscience et qui de plus en plus menace. J'aime beaucoup ce roman qui s'appelle Hyperion, cette saga de Dan Simmons, qui est une chose merveilleuse, bon, qui se situe dans des millénaires futurs. Mais le vrai problème, c'est que les intelligences artificielles sont devenues autonomes, et sans le savoir, elles possèdent les humains. Les humains sont contrôlés sans qu'ils sachent qu'ils sont contrôlés par ces intelligences artificielles, qui sont nées des ordinateurs et qui sont développées. Et c'est un peu le thème du film Matrix, c'est de la même chose. On est déjà sous le contrôle des intelligences artificielles. Eh bien, c'est à peine métaphorique. Je veux dire que les intelligences artificielles sont à l'intérieur de l'esprit de tous nos technocrates et nos experts qui sont persuadés d'être autonomes alors qu'ils agissent avec la logique des machines artificielles. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, un des grands problèmes et un des grands défis.
Avant l'an 2000, il parlait déjà de l'enquiquinement moral que serait l'intelligence artificielle. Et à plus de 90 ans, très lucidement, il confiait au journal L'Humanité en 2015.
D'abord, je pense qu'il faut revenir aux sources. Il faut toujours se ressourcer pour avancer. Et quelles sont les sources? Dans le fond, c'est la source libertaire qui est centrée sur l'épanouissement de l'individu. C'est la source socialiste qui nous dit qu'il faut améliorer la société. C'est la source communiste qui dit qu'il faut vivre en fraternité, en communauté. À quoi, moi, j'ajoute la nouvelle source qui est la source écologique. Bon, alors ça, c'est le retour. Le deuxième, c'est faire un diagnostic correct sur des événements extrêmement complexes et rapides qui sont les problèmes du monde actuel, notamment de la mondialisation. Là, nous avons affaire à une pensée qui n'est pas assez complexe, qui est débordée par cette réalité. Et à mon avis, il faut essayer de repenser ce qui se passe aujourd'hui et de voir s'il peut y avoir d'autres perspectives que la perspective catastrophique où nous allons. Il faut faire le travail qu'en son temps, Marx a fait, un diagnostic pas seulement sur la société capitaliste, mais sur les capacités humaines. Il a fait de l'anthropologie, il a fait de la philosophie, il a fait de la politique, il a fait de l'histoire. Aujourd'hui, il y a toute une part de cet héritage qui est réactualisé, notamment avec la mondialisation qui répond à ce qu'il avait vu, et toute une part qui n'est pas actualisée parce qu'il a eu une vision, à mon avis, trop limitée de ce que c'est l'être humain. Mais il faut aujourd'hui repenser tout ça. Moi, j'essaye de mon côté de faire ce que je peux, mais vous savez, dans mes livres, dans mes propos, mais je pense que je suis dans cette direction, et cette direction, c'est évidemment l'émancipation humaine.
C'est ce soir, 24 juin 2021.
Vous l'avez dit, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Début 70, vous êtes un des rares intellectuels à promouvoir l'écologie.
En 72, il fait partie des rares intellectuels français à brandir l'importance capitale du rapport Meadows sur le virage existentiel à prendre pour inclure dans la façon de progresser qu'aura l'humain d'ici l'an 2000. Bon, on sait que le virage n'a pas été pris et que le système se grippe et déraille de plus en plus. D'ailleurs, plusieurs gouvernements et présidents ont commandé des rapports très officiels à Edgar Morin. Devinez ce qu'il en advint ? Rien. Comme toujours ou presque, ils furent soigneusement ignorés et prennent la poussière sur les étagères des ministères. Et nous vîmes cette semaine les chapelets d'hommages contrits de politiques plus ou moins inconséquents ou pas peu fiers de quoi de ne pas être à la hauteur. Et Michel Serres, et Yves Coppens, Hubert Reeves, et j'en passe. Dernier pan d'exploration, justement, l'écologie. Nous sommes ici en 2020, encore sur France Culture.
L'écologie, pour moi, n'est pas une sorte de dogme. Pour moi, l'écologie doit être intégrée à une grande pensée politique sur l'humanité. Parce que aujourd'hui, le problème n'est pas seulement de sauvegarder la nature extérieure, c'est de voir que nous sommes menacés de l'intérieur par notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de circulation, notre façon d'être soumis à la dictature du profit et qui est contraire, disons, à la possibilité de régénérer la planète. Donc, si vous voulez, je suis un indépendant, je me définis de gauche, mais pas du tout à la façon des partis officiels de la gauche, à ma façon, à moi. Je dirais qu'aujourd'hui, mon souci principal, c'est le destin de l'humanité sur la planète Terre, et dont, évidemment, l'écologie est un des problèmes. On est dans une civilisation qui s'est fondée sur la séparation totale entre ce qui est humain et ce qui est naturel. Dieu a créé l'homme à son image. Paul a dit que seuls les hommes vont ressusciter et pas les animaux. Descartes a dit que les animaux étaient des pures machines et que nous, on avait une âme et un esprit. Bon, et puis alors, on a dit que notre civilisation doit dominer la nature et dominer le monde. Toutes ces idées sont fausses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à vouloir de dominer la nature, on est en train de se suicider nous-mêmes. Mais pour comprendre, pour réaliser qu'on fait partie de ces natures tout en étant autre par notre humanité, notre esprit, notre culture, mais que nous avons un lien ombilical, c'est très, très difficile. Et dans le fond, c'est une longue marche. Et la question, c'est de savoir si la prise de conscience viendra au bord de l'abîme ou si elle risque de venir trop tard.
Je tenais à presque terminer cette visite du Panthéon décousu par la voix de la jeunesse, disons physiologiquement plus jeune encore qu'Edgar Morin, puisqu'il s'agit de Camille Etienne, le 3 juin dernier, dans « C'est ce soir ». Elle a lu un large extrait, pas long, d'une lettre-réponse de son aîné sur les prises de conscience à avoir. Aujourd'hui, selon lui, le chercheur qui a perpétuellement douté s'est remis en cause. C'est même le titre de l'un de ses livres qui s'appelle « Autocritique ». C'est rarissime, non ?
Votre génération, elle affronte des problèmes que la mienne n'a pas connus. 1. La dégradation écologique de la planète avec ses causes dans le développement techno-économique incontrôlé, animé par la soif du profit et provoquant des ravages non seulement sur la biosphère et le climat, mais aussi sur l'anthroposphère, c'est-à-dire nos personnes, nos sociétés, nos civilisations. 2. La mondialisation a créé un destin commun pour toute l'humanité, sans pourtant créer la moindre solidarité, ni la conscience que la Terre est la patrie commune de toute l'humanité. 3. La régression mondiale qui met partout la démocratie en crise et crée la menace de sociétés de soumission d'un type nouveau où les individus sont totalement contrôlés par leur phobie, leur mail, la reconnaissance faciale. 4. Le risque de désastre qui viendrait de l'élargissement et l'amplification des conflits en cours comportant la menace de l'arme nucléaire. Aussi, je pense que votre génération pourrait et devrait se mobiliser sur tous les fronts des périls planétaires qui menacent l'avenir de notre espèce humaine. Pour cela, il faudrait que votre génération acquiert la conscience de l'aveuglement de la pensée qui règne et de la nécessité d'une pensée complexe qui puisse embrasser les défis de l'évolution actuelle qui sont à la fois écologiques, politiques, économiques. Amicalement, Edgar.
Je voudrais faire partie de ceux qui détectent l'erreur, qui dévoilent l'erreur, et non pas de ceux qui se croient propriétaires de la vérité.
Nous voici rendus au terme de notre visite à Edgar Morin. J'espère qu'elle vous aura donné envie de l'écouter, le lire, cheminer un peu avec sa pensée. Le Panthéon décousu est rediffusé dans la semaine et le podcast en écoute libre très bientôt. Mais ne nous quittons pas sans musique et son, l'un des chants qu'il avait choisi de reprendre sur scène chez lui à Montpellier avec, il me semble, Paco de Lucía, le tout pour son joyeux centenaire. Viva la Quinta Brigada est un chant républicain espagnol, donc de 36, ici par Rolando Alarcón en 67. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, ne vous privez surtout pas de mettre de la nuance dans votre pensée complexe et ce, matin, midi et soir.
Mon premier acte politique, ça a été d'aller au siège de la SIA, Solidarité Internationale Antifasciste, qui envoyait des colis aux anarchistes de l'Espagne républicaine. C'était une organisation anarchiste.
El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.